autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour faire parler les morts aujourd'hui, mais pas n'importe lesquels, et avec tout le respect qu'on leur doit. Du squelette de Lucie aux momies égyptiennes, de la mâchoire d'Hitler au cerveau d'Einstein, en passant par les crânes et les masques des collections muséales, comment la paléopathologie, cette médecine appliquée aux cadavres anciens, nous révèle une autre histoire et résout parfois de très anciennes énigmes. En passant au scanner des nouvelles technologies, les restes humains comme les objets d'art, en autopsiant les morts célèbres et anonymes, notre invité Philippe Charlier, médecin légiste mais aussi anthropologue et paléopathologiste, devenu directeur scientifique de la recherche du musée du Quai Branly Jacques Chirac, nous avait fait partager ses bouleversantes découvertes et son rapport différent, sidérant parfois à la mort. Nous vous proposons de réécouter cet entretien sensible et vertigineux autour de la question « Pourquoi et comment faire parler les squelettes, les momies, les masques et les morts célèbres ?» Bienvenue. Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir le médecin des morts que vous êtes. C'était le titre de votre tout premier ouvrage quand vous n'étiez que, si j'ose dire, médecin légiste. Mais vous êtes aussi anthropologue, anatomo et paléopathologiste, auteur de nombreux ouvrages à succès. Le dernier en date dont nous allons parler s'intitule « Autopsie des morts célèbres » et vient de paraître chez Taillandier. On se souvient aussi de vos enquêtes sur les zombies en Haïti, toujours sur la frontière, hein, de la vie et de la mort, on va y venir. Vous êtes également présentateur du magazine de la santé et désormais donc directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mais c'est aussi très cohérent, Philippe Charlier, pour vous, qui avez choisi comme pseudonyme sur Twitter « Doc Trotard ». C'est ça?
Oui, c'est-à-dire le médecin qui a le diagnostic, mais toujours avec un petit temps de retard, ce qui est vraiment l'apanage des médecins légistes. Oui, comme vous le dites, Caroline, tout ça est cohérent parce qu'il s'agit toujours de médecine, ou du moins d'une utilisation des techniques biomédicales pour l'humain. Pas forcément le vivant, mais l'humain en général, c'est-à-dire des corps morts, squelettes, momies, reliques parfois, et puis des artefacts créés par l'homme qui intègrent parfois des éléments du corps humain, cheveux, sueur, sang, parfois une tête ou un crâne ou des ossements, et puis aussi les figurations du corps, soit malade, soit mort, soit encore les rituels qui sont autour de la maladie et de la mort. Donc pour moi, il y a vraiment une unité où coïncident de façon harmonieuse les sciences humaines et les sciences fondamentales, les sciences molles et les sciences dures, comme certains le disent, qui ont vraiment tout cet intérêt à s'imbriquer l'une avec l'autre pour mieux connaître ce dont l'homme est fait, ce que l'homme fait quand il vit et quand il meurt.
Quand il vit et quand il meurt, là où pas grand monde ne veut aller finalement, cette démarche, vous l'avez dit, elle est forcément interdisciplinaire. C'est-à-dire que quand on s'intéresse pour faire parler les morts, en gros, il faut à la fois être anthropologue, s'intéresser aux cultures, mais également maîtriser les nouvelles technologies.
Oui, il faut vraiment un regard multiple. Il faut deux yeux ne suffisent pas, un seul cerveau non plus ne suffit pas. Il faut vraiment une multiplicité des regards, des compréhensions, des outils pour mieux cerner cette complexité vraiment qui fait la machine humaine et ses créations. On le voit quand on travaille sur des restes historiques, par exemple, on ne peut pas se passer d'un regard d'un historien. Je prends pour Saint-Louis, par exemple, il nous faut absolument des spécialistes de ce monde médiéval, à la fois pour la...
Vous avez, reconstitué le puzzle des restes de Saint-Louis.
Oui, c'est ça, on a reconstitué le puzzle, une partie, malheureusement, parce qu'il y a des pièces qui sont manquantes, comme dans tout puzzle qui a un certain âge. Mais il nous fallait des historiens qui nous fassent comprendre qui était cet individu, quelle était son alimentation, quel était le contexte des maladies, quel était le contexte du départ de la 8e et dernière croisade, pourquoi son corps a été morcelé, dans quelles conditions. C'est très complexe, jusqu'à la complexité ultime qui était celle de pourquoi utiliser une odeur de sainteté artificielle pour conserver un corps. Cette théorie des odeurs qu'on ne connaît pas, nous, médecins, elle est fondamentale pour les historiens médiévistes.
Oui, donc il faut vraiment s'intéresser. Du coup, ça permet non seulement de faire parler les morts, mais de faire parler leurs contemporains, c'est-à-dire d'avoir leur vision du monde. On peut peut-être s'arrêter d'ailleurs sur ces autopsies de tous ces morts célèbres que vous avez pratiquées et recensées, Philippe Charlier, dans votre dernier ouvrage, aux éditions Taillandier. Vous partagez avec nous la résolution de quelques-unes, on va le dire, des plus grandes énigmes de l'histoire. Qui a tué Lucie? Comment reconstituer justement le puzzle des restes des rois de France, le cerveau de Descartes ou l'identification de la mâchoire d'Hitler? Alors, parmi tous ces morts célèbres, il y en a plein. Toutes les histoires sont passionnantes. Est-ce qu'il y en a un qui vous a appris quelque chose ou étonné? Est-ce que vous pourriez nous faire partager justement une de ces autopsies?
Alors là, vous avez cité deux mandibules, si je peux dire, qui ont été assez parlantes. La première, c'est celle de Saint-Louis, l'étude de cette mandibule de Saint-Louis, que d'abord on a pu identifier et authentifier par une étude multidisciplinaire. Donc il y avait dosage de carbone 14, la morphologie qui correspondait à ce qu'on sait de lui. On a même superposé en trois dimensions cette mandibule sur une statue extrêmement ressemblante du roi. Et là, à nouveau, ce sont les historiens de l'art qui nous ont aidés à faire cette identification. Et on a mis en évidence des lésions de scorbut. On suspectait déjà que c'était le scorbut, donc la carence en vitamine C qui avait précipité le décès du roi, même si tout le monde parlait de peste. Mais ce sont des erreurs de traduction et un colportage d'une mauvaise donnée de génération en génération.
Saint-Louis est mort du scorbut.
Il est mort en étant scorbutique, si on peut dire. Et sur ce scorbut, à l'époque, on appelait ça une maladie de l'os, parce que ça rongeait les os, notamment les os de la gencive, de la bouche. Et bien sûr, ce scorbut, il a très bien pu faire une maladie infectieuse, provoquant une diarrhée, provoquant une septicémie ou autre chose, qui l'a emporté un petit peu plus vite. Lui, et les gens de son entourage, les gens de sa suite, les militaires de son armée, si on peut dire, les croisés, et peut-être même le camp adverse par une diffusion de cette infection et peut-être d'autres carences.
Alors, donc là, c'est Saint-Louis, grâce à sa mâchoire.
Grâce à la mâchoire qui est à Notre-Dame de Paris et qui n'a pas été touchée par la catastrophe récente, eh bien, on peut reconstituer un fait historique ponctuel, mais éclairé par des spécialités scientifiques radicalement différentes.
Et par des technologies, on va y venir aussi, très modernes. J'ai parlé d'une autre mâchoire. Hein,
c'est celle d'Hitler, exactement, qui là a été récupérée par les soviétiques à l'époque, en 1944, et qui ensuite, une deuxième partie a été récupérée quelques mois plus tard par une deuxième équipe soviétique. Donc ces restes maintenant sont à Moscou. Ils ont été retrouvés à proximité du bunker de Hitler à Berlin. Et là, à nouveau, on a porté un regard médico-légal et on s'est rendu compte que ces restes, dont une équipe suisse avait déjà travaillé dessus et montré que c'était en effet morphologiquement totalement compatible avec ce qu'on savait du dossier médical de Hitler, mais il fallait qu'on vérifie si, à l'époque de Khrouchtchev, un faux historique mimant la réalité anatomique n'aurait pas été réalisé pour s'en servir tout simplement comme d'un trophée, un trophée de chasse, un trophée de guerre.
Il fallait vérifier que c'était bien l'authentique mâchoire d'Hitler.
Oui, parce que des faux historiques, il y en a pas mal. Et donc là, notre idée était d'aller sur place avec une loupe binoculaire pour vérifier vraiment la morphologie, voir s'il y avait une patine d'usure, des micro-fractures, des dépôts de tartre dentaire. En gros, si à l'échelle ultra-structurale ou à l'échelle millimétrique, on pouvait se rendre compte si ces restes étaient authentiques. On a même été autorisé par le FSB, descendant du KGB si on peut dire, à faire des prélèvements qui ont été ramenés en France à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour être examinés ensuite au microscope électronique à balayage et faire des dosages élémentaires. C'est comme ça qu'on a pu en savoir plus sur les circonstances exactes de la mort de Hitler. En l'occurrence, un essai de tentative de suicide par du cyanure, dont on voit même l'interaction entre le cyanure et le métal de la prothèse dentaire, une trace de corrosion assez caractéristique. Et puis ensuite, comme manifestement ça n'a pas marché ou pas marché assez vite, eh bien, il y a eu un tir par un projectile à balle d'arme à feu. Et on peut même être suffisamment précis et dire que ce tir n'a pas été porté par l'intérieur de la bouche, puisqu'on n'a pas de dépôt de poudre. On ne retrouve pas les éléments caractéristiques de la poudre à la surface du tartre dentaire. Donc soit ça a été tiré au niveau d'une tempe droite vraisemblablement, soit en ce qu'on appelle rétromandibulaire, c'est-à-dire la zone anatomique qui est derrière la bouche et qui monte de façon quasiment verticale vers l'arrière du crâne.
On n'est pas dans une enquête policière, vous êtes bien sur RFI.
Pas loin.
En votre compagnie, on n'est pas loin, Philippe Charlier, parce que cette fréquentation, j'ai envie de dire quotidienne, avec les morts, hein, ceux du passé, ceux d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en retirez. C'est le chercheur, un chercheur qui s'appelle Thomas Hems, qui lui aussi travaille, on va dire, sur les frontières ou les nouvelles limites du vivant, qui vous interroge. Il était récemment notre invité pour son ouvrage intitulé « Infravie ». Écoutez sa question, elle est pour vous.
Est-ce qu'il trouve qu'il y a une manière simple de passer de la vie à la mort ? Et est-ce que dans les différentes manières qu'on a, notamment pour les humains, de considérer différentes morts successives, est-ce qu'il place quelque part un moment décisif, ou alors est-ce qu'il est plutôt d'accord avec l'idée qu'il y aurait un effacement progressif de la vie vers la mort ?
Votre réponse, Philippe Charlier.
D'abord, c'est une très belle question. C'est une question qui est plus que scientifique, une question métaphysique, je trouve.
Sûr.
Écoutez, en tant que médecin légiste et aussi archéo-anthropologue, et puis avec mon expérience propre, et notamment celle du vaudou béninois et haïtien...
Qui vous a beaucoup marqué, on y reviendra.
Qui m'a beaucoup marqué, et qui m'a marqué physiquement même. Je pense que la mort n'existe pas. Et que
attendez, ça c'est une info. mort n'existe pas.
Non, au sens philosophique. C'est-à-dire que la mort est... C'est une vision un peu atomiste. La mort fait partie de la vie, tout simplement. La mort est un changement d'état. Évidemment, on meurt, bien entendu. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose de fantasmagorique. On meurt, bien entendu, au sens social, au sens physique. On se désagrège, mais il y a une transmission qui est celle de particules, d'énergie ou autre chose, et il y a vraiment une continuité, ce qu'on appelle la chaîne continue des vivants et des morts.
C'est quelque chose que vous...
Biologiquement, la mort, pour moi, n'a pas d'existence. C'est vraiment un changement d'un état à un autre, tout simplement. Et quand je vois en médecine légale comment le mort, le cadavre, est une source de vie pour des mouches, pour des scarabées, pour des araignées et pour une future vie qui va naître à partir de tout ceci, ben je me dis que c'est simplement un changement d'état de l'un à l'autre. C'est également ce qu'on enseigne dans le vaudou, qu'il soit haïtien ou béninois. C'est ce qu'on enseigne dans beaucoup d'autres religions.
Et un changement d'état, donc quoi ?
Il est radical
ce changement d'état.
Il est par marche d'escalier de hauteur variable, on va dire. Voilà, il y a des toutes petites marches, et puis il y a parfois une grosse marche qui est celle de la mort visible, bien entendu. Mais on a un étiolement dans le bouddhisme tantrique. On parle d'une extinction progressive des différentes lumières du corps. Et ça, c'est une très belle chose. Au début, ce sont quelques lumières qui s'éteignent, on ne s'en rend pas compte. Et puis à la fin, quand beaucoup de lumières finissent par s'éteindre, là, l'obscurité commence à apparaître. Et c'est la mort telle qu'on la voit dans notre monde occidental.
Autour de la question comment faire parler les morts, je ne sais pas si ça rend philosophe, mais en tout cas, ça doit vous faire porter un autre regard sur la vie et sur la mort, parce que votre métier d'archéologue, d'anatomopathologiste, de médecin légiste, vous renseigne et nous renseigne aussi sur les différentes maladies, on l'a compris, hein, de quoi sommes-nous morts à ce sujet. Nouvelle question pour vous, soulevée par les neurobiologistes Étienne Hirsch et Bernard Poulain, qui étaient nos invités ce lundi, pour nous éclairer sur le fonctionnement et les dysfonctionnement du cerveau. Bernard Poulain et Étienne Hirsch qui ont une question à vous poser.
Oui, moi la question que j'ai envie de lui poser, c'est de savoir si les pathologies qu'on observe maintenant, entre autres les pathologies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, donc on sait qu'elle peut débuter très très tôt, hein, il y a des formes précoces de la maladie de Parkinson, existaient déjà chez les Égyptiens, par exemple.
J'aurais posé une question à peu près du même ordre. Est-ce que les pathologies qu'on décrit maintenant ont été considérées comme des pathologies autrefois ?
Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions en tant que médecin légiste, Philippe Charlier ?
Alors, on a deux sources principales pour répondre à ces deux questions. La première, ce sont les cadavres, travaillés sur les cerveaux, notamment essayer d'identifier sur des cerveaux anciens des traces d'une maladie de Parkinson ou d'une maladie d'Alzheimer ou autre maladie neurodégénérative. C'est théoriquement possible. Pour l'instant, ça n'a pas encore été réalisé. On continue sur ces substrats assez particuliers. On a des cerveaux du 18e, 19e siècle qui sont conservés dans les collections anatomiques et qui, là, pourraient éventuellement nous permettre de répondre. On a des cerveaux desséchés d'époque médiévale, par exemple, à Paris ou ailleurs. Donc, on peut théoriquement chercher ça. Pour l'instant, on n'arrive pas encore à répondre à la question. L'autre, ce sont les textes. Et on a des textes, s'agisse des textes épidémie, par exemple, des traités hippocratiques. On a le papyrus Ebers, qui est un papyrus égyptien. Parfois, on a des traces des traces, si je peux dire, des descriptions.
Des épidémies du passé.
Alors, épidémies.
Ou des maladies.
Voilà, c'est vraiment. C'est un recueil de petites fiches de patients écrits par des médecins, un peu plein de dossiers médicaux, parfois très succincts, parfois très détaillés sur les signes cliniques. Et il y en a certains qui seraient compatibles avec la maladie de Parkinson, avec des tremblements, avec des roues dentées, avec des blocages, etc. Mais malheureusement, sans le témoignage direct du patient, de ce qu'il en reste, c'est assez difficile. Une chose importante quand même, c'est que les maladies du passé ne sont pas forcément les mêmes que maintenant. Par exemple, une tuberculose du 19e siècle, du Moyen-Âge et actuelle, c'est peut-être toujours le même germe, mais la façon de notre corps de réagir à cette infection n'est pas forcément la même.
Nous avons évolué, les microbes, les bactéries aussi, c'est un peu ça.
Nous avons évolué, le microbe, la bactérie ou le virus pour une autre maladie ou un parasite ont également évolué et c'est pas exactement la même chose. On peut mettre le même diagnostic, le même nom, puisque c'est toujours des humains et c'est toujours un Mycobacterium tuberculosis, mais ça, c'est pas forcément la même signature clinique et donc il faut se méfier des conséquences que ça pouvait avoir. Elles pouvaient être plus graves, elles pouvaient être beaucoup plus légères aussi.
Et est-ce qu'il n'y a pas des conséquences pour vous qui manipulez ces cadavres de réveiller, là je pars dans les fantasmes ou les peurs, de réveiller des vieux virus justement?
Alors oui, il y a ce danger-là. Alors moi j'en ai fait les frais quand je travaillais sur les restes d'Agnès Sorel, puisque j'ai attrapé une infection pulmonaire. À l'époque je travaillais sans masque, je ne fais plus cette erreur. Je travaillais sans masque. Et
une très vieille infection pulmonaire.
Une infection qui probablement, ça devait être un agent infectieux qui datait du 15e siècle, puisqu'elle est morte en 1450.
D'accord.
Et voilà, mais bon, j'ai un suivi scanographique à l'hôpital européen Georges Pompidou, et ensuite c'est bon, c'était réglé, pas de problème particulier. Non, le danger est beaucoup plus important, et c'est Jean-Michel Claverie à Marseille qui a bien mis ça en évidence, lui qui travaille sur ces pandoravirus, sur ces virus.
Ces mégavirus.
Les mégavirus. Et le terme pandoravirus qu'il a utilisé est vraiment magistral. Ce sont des virus anciens qui datent du moment de la glaciation, et avec la fonte actuelle du permafrost, eh bien, ils sont remis dans la circulation, soit par les touristes qui se rendent là-bas, soit par les scientifiques qui ne prennent pas assez de précautions, qui les ramènent dans leurs chaussures ou dans leur parka ou ailleurs. Et comme la boîte de Pandore, ils peuvent sortir ces mots potentiellement dangereux.
Ces mots MAUX.
Hein. MAUX, oui, c'est maladies potentielles, les sortir de la glace et qui font et les ramener dans des mégalopoles avec tous les risques infectieux possibles. Donc il y a une vraie urgence. Hein. On a écrit ensemble avec Jean-Michel Claverie là-dessus. Il y a une vraie urgence de l'OMS et des organismes de recherche, CNRS, INSERM, à travailler sur ces virus, bactéries et parasites du passé. Ils ont peut-être 100 ou 150 000 années, mais ils sont potentiellement dangereux pour la population actuelle.
Alors on va revenir un peu plus près de nous avec d'autres surprises, Philippe Charlier, qu'on peut découvrir en autopsiant une momie par exemple, autour de la question comment faire parler les momies. Je propose tout de suite un petit extrait, pas piqué des vers si j'ose dire, extrait d'un documentaire de Discovery Science France sur la momie de Ramsès III, le pharaon assassiné, passé au scanner par l'Indiana Jones égyptien Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités égyptiennes, documentaire diffusé en 2014.
Voici Ramsès III, le dernier grand pharaon. Mais son corps est entièrement enveloppé dans des bandelettes en lin, sauf la tête. Et les scientifiques n'ont pas le droit de les retirer.
Ça pose problème car on peut difficilement voir s'il y a des marques sur le corps ou pas.
La seule façon de voir à travers le lin est de passer la momie au scanner.
On verra ce que montre le scanner.
Erlangen, en Allemagne. L'équipe de Zahi arrive dans un laboratoire à la pointe de la technologie pour examiner les scanners de Ramsès III. Le scanner révèle ce qui a été caché par le lin toutes ces années.
Agrandissez cette zone.
On a quelque chose ici. Le larynx est séparé de la trachée. Il y a une entaille dans la gorge.
Ça alors?
Et elle va jusqu'à la vertèbre. La seule explication est que Ramsès III a été coupé au niveau du cou de son vivant.
Le pharaon a eu la gorge tranchée. Ramsès n'est pas mort de cause naturelle. Il a été assassiné.
un vrai polar. Philippe Charlier, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais en tout cas, vous aussi, vous avez passé des momies au scanner et résolu d'étranges enquêtes policières post-mortem.
Alors, c'est peut-être comme ça que ça se passe dans je sais pas, des séries télévisées, Les Experts ou autre chose, mais non, en pratique, c'est d'abord beaucoup moins sensationnel, c'est présenté de façon beaucoup moins dramatique, et surtout, un scanner ne suffit pas. Il faut, comme en médecine légale, hein, une section au niveau cervical pour savoir si ça a été fait avant la mort, au moment de la mort, provoquant la mort, ou post-mortem, il faut un petit peu de microscopie, il faut chercher des saignements, etc., etc., et un examen à la loupe binoculaire ou autre. Enfin, voilà, on essaie vraiment, on fait un travail sérieux et on ne s'arrête pas à une première vision tout simplement. Et toute étude est systématiquement présentée dans des journaux scientifiques à comité de lecture parce que c'est un travail qui se veut aussi sérieux qu'un travail fait sur le vivant ou sur un individu mort récemment pour lequel on pourrait aller défendre sa cause, son expertise devant une cour d'assises.
Donc, vous parlez d'ailleurs souvent, alors vous parlez de vos patients, on en viendra même pour des objets d'art ou des statuettes, mais vous parlez de patients. Hein.
Ce sont des patients à partir du moment où, et là je dois avouer que c'est un peu une déviation professionnelle, à partir du moment où ils passent dans des mains médicales, se deviennent des patients, et du coup on leur doit un respect, ce respect allant jusqu'à ne pas publier forcément des photos d'eux tout nus, même une momie qui a 2500 ans, ça sert à rien de la publier toute nue, on se doit de conserver encore sa pudeur, sans aucune pudibonderie, hein. Je suis tout sauf pudibon, mais voilà, ça sert à rien, la science ne doit pas être impudique, tout simplement.
Et ce ne sont pas des objets de foire. À propos de ces momies, un de nos auditeurs à Cotonou, au Bénin, cher à votre cœur, il s'appelle Kalilou Tirera, il vous demande, Philippe Charlier, comment les corps des pharaons, des momies, se conservent aussi longtemps? C'est une énigme absolue, même quand on voit ce film un peu sensationnel, on est fasciné devant ces momies.
Alors d'abord, des momies, il y en a partout autour du monde. Il y a quasiment très très peu de civilisations qui ont échappé aux momies. Alors pas forcément artificielles, hein. Il y a des momies qui sont naturelles parce que l'environnement est soit très glacé, je pense à l'Alaska par exemple, je pense à certaines momies inuites également, au Groenland.
Conservées dans la glace,
notamment les momies de Kilakitsok, par exemple, qui, elles, dataient du 17e, 18e siècle, avec une conservation extrême de tous les tissus, tissus corporels, hein, la peau, les muscles, les intestins, etc. La glace évite tout simplement, temporairement, la décomposition, comme pour un mammouth du Pléistocène, qu'on pourrait retrouver dans la toundra sibérienne, malheureusement en train de fondre. C'est la même chose aussi dans les déserts, pas simplement l'Égypte. Regardez Atacama, par exemple.
Au Pérou,
regardez également au Chili, au sommet de toutes les montagnes des Andes, des momies naturelles de petites filles, plus rarement de petits garçons, qui ont été déposées là comme offrande, vraisemblablement pour les divinités, et qui sont morts de froid ou drogués, ou parfois avec un traumatisme. Pareil en Chine, pareil en Iran, dans des grottes de sel. Voilà, c'est vraiment des momies bouddhistes également, qui sont faites cette fois-ci artificiellement, au Japon, également à Taïwan ou en Thaïlande, même au Bénin. Hein, moi, j'ai vu quelques restes momifiés au Bénin, à Boïcon, en l'occurrence. Notre auditeur saura situer ça sur la carte, pas très loin d'Abomey, des restes humains partiellement momifiés qui n'étaient pas encore datés. Donc, toutes les civilisations, ou beaucoup de civilisations, ont connu de façon soit naturelle, soit mixte, soit artificielle, des momies. Vous savez, c'est une période de canicule et il est possible que certaines personnes décèdent malheureusement à leur domicile et que leur corps, desséché à domicile, soit retrouvé dans quelques mois par les familles, s'étonnant de ne pas avoir de nouvelles au moment de Noël ou des fêtes ou autre chose.
On peut être momifié, c'était votre expérience pour la canicule de 2003 ?
Oui, c'était mon expérience en tant que médecin légiste pendant la canicule de 2003. Il y avait ce type de choses qui étaient arrivées. Vous savez, maintenant avec les prélèvements automatiques et l'isolement des personnes âgées, on prend des nouvelles de ces personnes-là, juste une fois par an, pour les fêtes, pour le nouvel an. C'est évidemment pas assez.
On poursuit l'enquête paléopathologique autour de la question comment faire parler les momies, les squelettes, célèbres ou anonymes, avec les innocents. Et oui, il faut le faire, extrait de leur dernier album, De quoi suis-je mort ? C'est pour vous, Philippe Charlier.
Pourrais-tu me dire de quoi suis-je mort ? Thank you.
quoi suis-je mort ? Il serait du dernier album des Innocents sur RFI. C'est pour vous, Philippe Charlier. Autour de la question comment faire parler les morts, les squelettes, les momies, mais aussi les objets sacrés, les reliques, les fétiches, en votre compagnie, puisque vous passez désormais au scanner, Philippe, d'autres patients célèbres, ceux des collections du musée du Quai Branly, puisque vous dirigez aujourd'hui le département recherche et enseignement de ce musée. Vous pouvez les ausculter, les examiner sans même les toucher. Hein. Ce sont des autopsies virtuelles que vous pratiquez avec beaucoup de respect et qui nous en disent long sur nous, les hommes, au passé comme au présent. Avant de découvrir si les fétiches possèdent vraiment une charge magique, vous avez choisi de nous faire écouter un extrait d'un court-métrage étonnant, Les statues meurent aussi, un documentaire culte, très longtemps interdit, d'Alain Resnais et Chris Marker, sorti en 1953. Une œuvre particulière, singulière, autour de l'art nègre, commandée par la revue Présence africaine à Alain Resnais et Chris Marker.
Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit poussé, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. L'art nègre. Nous le regardons comme s'il trouvait sa raison d'être dans le plaisir qu'il nous donne. Les intentions du nègre qu'il crée, les émotions du nègre qu'il regarde, cela nous échappe. Parce qu'elles sont écrites dans le bois, nous prenons leurs pensées pour des statues. Et nous trouvons du pittoresque là où un membre de la communauté noire voit le visage d'une culture.
Les statues meurent aussi, extrait de ce court-métrage d'Alain Resnais et Chris Marker, longtemps interdit. Pourquoi ce choix, Philippe Charlier ?
Ce choix parce que Chris Marker et Alain Resnais ont posé la question de quand est-ce que les objets d'art extra-européens, alors ils utilisent le mot d'art nègre à l'époque, quand trouveront-ils enfin leur place dans des musées à part entière, comme le musée du Louvre, etc. Et quand est-ce qu'on arrêtera de les regarder comme une sous-culture, comme simplement quelque chose de bizarre, d'exotique, pour tout dire, de secondaire. Et quand est-ce qu'on les reconnaîtra comme une réelle culture, de vrais artistes? Et c'est une question que se posait déjà Félix Fénéon, à toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec des réponses assez variables. Lui, déjà, voulait faire entrer cet art, il parlait d'art lointain au musée du Louvre. Maintenant, ça existe, ça s'appelle le pavillon des sessions, qui est une antenne du musée du Quai Branly, au musée du Louvre. Et maintenant, évidemment, nous considérons pleinement cet art, ces cultures sur un pied d'égalité, et ce sont des cultures qui ont beaucoup à nous apprendre, alors que à l'époque de Chris Marker et Alain Resnais, la situation était inverse. On considérait à l'époque que ces civilisations et ces peuples devaient être acculturés, si on peut dire, par l'Occident.
Alors aujourd'hui, on en est loin, et aujourd'hui, effectivement, vous parlez de vos patients lointains pour parler de ces œuvres d'art, pour travailler aussi sur place à la restitution, à retracer le parcours. Vous parlez de ces patients lointains et vous passez ces œuvres d'art, parfois des masses, des fétiches, au scanner.
Oui, on pourrait dire les statues sont malades aussi, pour paraphraser Chris Marker et Alain Resnais. On les passe au scanner. Récemment, au musée du Quai Branly, on a fait venir, c'était vraiment une première mondiale, on a fait venir un scanner médical directement dans le musée. Un scanner portatif ou mobile, qui fait quand même une tonne 5.
Portatif, ça se pose là, mais pour pouvoir scanner les œuvres sur place.
Oui, l'idée, c'était assez fréquemment, on emmène une ou deux statues ou objets dans un hôpital parisien pour subir ce type d'examen.
Je crois que vous allez le faire tout à l'heure en sortant de cette émission.
En vous quittant, exactement, il y a un tableau qui doit être examiné de cette façon-ci. Mais c'est ponctuel. Là, on avait envie pour une grande série d'objets difficilement transportables, parce que fragiles ou autres, et bien de faire venir directement cette machine entre les vitrines, tout simplement, dans les espaces d'exposition, en l'absence de visiteurs, bien entendu, ou dans les réserves. Et on a passé quasiment 150 objets en moins d'une semaine, ce qui nous permet de mieux comprendre l'histoire, la trajectoire de ces objets. Il y a un collègue qui s'appelle Carlo Severi, qui est historien de l'art, qui parle d'objets-personnes. Et c'est vraiment ça, on fait la biographie de ces objets-personnes. Pourquoi objets-personnes ? Parce que ce ne sont pas simplement des objets, ce sont des objets qui ont été animés, qui ont été sacralisés. Ils portent en eux une charge magique.
Portent une charge magique, c'est le scientifique, le médecin qui dit ça. Quand vous êtes devant un fétiche, quand vous êtes devant un masque, quand vous êtes devant une statue, ils portent une charge sacrée.
Ils ont une double identité. On peut considérer, et c'est totalement légitime, que ce sont des objets qui sont dans un musée et que ce sont donc des objets de musée. C'est totalement légitime, absolument aucun problème. On peut considérer, en ayant un autre regard, celui peut-être des populations d'origine, des croyants, tout simplement, eh bien, on peut considérer que ce sont des objets qui sont certes dans un musée, mais qui ont toujours un caractère magico-religieux. Et donc, il faut les considérer comme des objets-personnes, pour reprendre cette formulation de Carlo Severi, qui, je trouve, s'applique particulièrement bien aux objets extra-européens, en tout cas, par exemple, pour les objets océaniens ou d'Afrique subsaharienne. Et dans cette perspective actuelle des restitutions, pour laquelle je n'ai pas d'avis propre, il est très important que le musée du Quai Branly, le département de la recherche, ait cette nécessité d'enquêter sur la constitution de ces objets, sur leur origine, sur leur parcours, leur biographie, si on peut dire, puisque ce sont des objets-personnes. Voilà, reconstituer toute cette étape, toute
avant
cette histoire
de
des collections,
avez,
cette
après
migration
avoir travaillé
des
au Cameroun,
objets,
là, notamment sur
jusqu'à un retour aux sources, jusqu'à travailler sur place au Bénin, au Cameroun.
Au Bénin, en Haïti.
Oui, on mène vraiment des missions archéologiques ou anthropologiques de terrain, toujours en lien avec les structures culturelles ou les centres de recherche de ces trois différents pays. C'est vraiment la main dans la main avec nos collègues chercheurs. Et on travaille soit sur les rituels magico-religieux autour de la maladie et de la mort, par exemple en Haïti, cimetière principal de Port-au-Prince ou d'autres cimetières. Et on travaille également sur l'origine de ces objets qui ont été collectés ou transférés à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, notamment par des fouilles archéologiques, par des prospections de surface, notamment dans les palais royaux d'Abomey ou ça peut être dans les chefferies Bamileke, dans le cadre de ce qu'on appelle la route des chefferies dans la région de Bafoussam.
Autour de la question comment faire parler les fétiches, les statues, les reliques et autres œuvres d'art, nouvel éclairage d'une ethnologue et anthropologue, elle s'appelle Frédérique Schluss et elle travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Ce qui me semble vraiment extrêmement intéressant dans les recherches qui sont menées au Quai Branly, aujourd'hui et dans d'autres musées évidemment, et notamment au Muséum, c'est comment utiliser toutes les nouvelles technologies d'imagerie pour refaire parler différemment les collections. Et c'est vrai que on a pendant un moment considéré que les collections, mais c'est vrai pour les collections naturalistes, étaient des collections un petit peu juste qui me permettaient de montrer ou de faire des catalogues. Et aujourd'hui, on les réinterroge et on apprend des choses incroyables grâce aux nouvelles technologies qui peuvent être des technologies d'imagerie, de scanner ou des technologies d'ADN pour l'ensemble des collections. C'est une force des collections et on a besoin aujourd'hui d'asseoir cette force-là au-delà du simple catalogue sur des rayonnages. Ça, c'est vraiment passionnant. On découvre des choses incroyables aujourd'hui. Ouais. Il faut vraiment que le regard sur les collections change. Et aujourd'hui, au Muséum, l'idée, c'est vraiment d'inviter les chercheurs à regarder de nouveau et à se servir de ces collections. Et on fait des choses fabuleuses en biodiversité, mais aussi d'un point de vue ethno ou évolution de l'homme au Muséum, où on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Donc ça... Le nouveau regard porté sur les collections aujourd'hui, c'est une piste de recherche à part entière et très prometteuse.
Une piste prometteuse, Philippe Charlier, il faut revisiter finalement les collections et apporter un autre regard aussi sur ces œuvres, chargées.
Oui, ma collègue a vraiment raison. Toutes les collections, vous savez, le musée a un double rôle, conserver. Il est tenu, et c'est normal, par des conservateurs qui sont là pour conserver jusqu'à la génération d'après et au-delà. C'est très bien et c'est normal. C'est le principe même du musée. Et dans le même temps, les collections doivent vivre au sens de, elles doivent être une source d'enseignement, une source pas forcément de prélèvement, car c'est destructeur, donc il faut choisir, etc.
Oui, mais aujourd'hui, grâce aux techniques non invasives, aux scanners, etc., on peut
exactement
observer l'intérieur sans les toucher.
On peut savoir sans détruire maintenant. On a les moyens de savoir s'en détruire, le scanner, on a des analyses élémentaires ou chimiques de surface qui ne sont pas destructrices, etc. Donc on a vraiment les moyens, mais ce qui compte, c'est vraiment de faire vivre ces collections. L'accumulation est une chose, la compréhension du monde passé, présent et à venir en est une autre, et toutes les collections, qu'il s'agisse des collections zoologiques ou botaniques du muséum, qu'il s'agisse de collections anatomiques du 19e ou antérieures, qu'il s'agisse de collections anthropologiques, même d'objets d'art, les peintures du musée du Louvre sont analysées par de nombreux organismes de recherche, par exemple le C2RMF, comme on dit, Centre de restauration et de recherche des musées de France, et plein d'autres. Donc cette vie de la recherche, elle est nécessaire, et je pense que la nouvelle génération de chercheurs, de conservateurs est totalement acquise à cette cause.
À la recherche, c'est étonnant tout de même, Philippe Charlier, parce que chaque fois que je vous reçois, vu qu'on appelle médecin des morts ou paléoanthropologue, on parle de la mort, mais en fait, vous parlez beaucoup plus de la vie et du vivant, et finalement de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, que d'hier. Enfin, en étudiant le passé, vous nous éclairez sur le présent. Moi, je suis toujours étonnée par ça, c'est-à-dire que quand vous parlez, vous avez beaucoup travaillé aussi en Haïti, on l'a dit, sur le phénomène des zombies, vous allez retourner, vous travaillez au Bénin, sur les questions, sur toutes ces questions-là, à chaque fois, vous nous emmenez du côté de la vie.
Mais c'est le principe même de travailler sur les morts, de l'anthropologie funéraire, de l'archéologie et de l'ethnologie aussi. En travaillant sur des populations décédées, je pense à ces squelettes et ces momies en l'occurrence, ou des populations qui fricotent, si je peux me permettre, avec la mort, je pense aux zombies. Mm-hmm. Fricoter est un terme que j'ai entendu là-bas, donc c'est pour ça que je vous le dis, parce que je le trouve savoureux. À chaque fois, c'est un enseignement pour les vivants. On dit que les morts enseignent aux vivants. Et c'est vraiment ça la leçon à tirer de tous ces patients du passé, c'est qu'ils ont énormément d'informations à nous transmettre, un peu comme des ambassadeurs, un peu comme des... Vous savez, les morts, c'est un peu comme des livres qui sont écrits et qu'il faut lire, mais on est plusieurs à devoir lire le livre, parce que c'est une écriture qui est complexe.
Philippe Charlier, je vous propose d'écouter une musique chère à votre cœur. C'est vous qui nous l'avez conseillé. Vaudou béninois, date de 1983, extrait d'un disque Okora. C'est le chant de l'histoire de Bonou sur RFI.
Ai wa bore o ya kara yo ro ya o to e bodo la ya asino bibi na we bawo e la wo e bodi asu yo
ya ti o bi ro gbe npa toro ko memro yonda na ya o nya pa ru amlaji to ko memro yonda na ya o gba e lo bonu edin aya ran krene u e bi ho gbe gbo jeme
ya I wa bore Nala yala ya oto e bodona ya iwa bore o ya kana yala ya oto e bodona ya asino bibi na we bawo e na wo e bodadu ya
ati treno bibi ha we gragra
e na wo e bodadu ya
ati treno bibi ha we gwaite
e na wo e bodadu ya
asino bibi ha we gragra
e na wo e bodadu ya
ndo gbedu wenu hado Hore mono po do kwe tome, de yakpo bo bo non du kwe do odo, ena jetane ki bo kwe, ati enando eyon.
Le chant de l'histoire de Bonou, extrait de l'album Okora, enregistré en 1983 à Porto Novo, au Bénin. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça vous dit, cette musique?
Vous avez entendu la cloche bitonale avec le rythme très particulier du vaudou, cette alternance de 2-2-1, 2-2-1, et puis cette langue. Le vaudou est une véritable religion, elle doit être en tout cas considérée comme telle, même si elle est un peu stigmatisée, que ce soit en Haïti ou ailleurs par les communautés néo-protestantes. Et il y a un savoir monstrueux, si je peux dire, qui est véhiculé à travers cette tradition. Et oui, cette musique me transporte littéralement.
Elle vous transporte et elle vous parle. C'est-à-dire qu'à côté de votre savoir de médecin, de paléo-anthropologue, avec les outils d'imagerie, de scanner, de génétique qu'on a aujourd'hui, il y a parallèlement, enfin vous tenez les deux bouts de la chaîne, il y a ce savoir-là qui vous parle aussi en tant que médecin des morts, si je veux dire.
C'est un savoir, c'est une vision du monde, tout simplement, que je trouve totalement enrichissante. Et je trouve que le monde est tellement complexe et tellement inconnu qu'il est bon d'avoir plusieurs moyens de l'aborder. On peut avoir une vision religieuse, on peut avoir une vision anthropologique, on peut avoir une vision scientifique. Et même en mettant bout à bout cet ensemble de connaissances, alors certes, je suis jeune, hein, j'ai à peine la quarantaine, et donc je suis loin de comprendre le monde, bien entendu. Je ne suis pas certain que dans quelques années, quand je mourrai, je l'aurai compris. Certainement non, bien entendu. Mais au moins, ça permet d'accumuler plusieurs regards. Vous voyez, rajouter d'autres paires d'yeux, des petites circonvolutions cérébrales supplémentaires, des petits circuits neuronaux qui permettent peut-être d'en goûter encore plus la saveur. Et la religion vaudou est vraiment quelque chose qui est très enrichissant parce que voilà, c'est un regard autre, tout simplement.
Un regard autre et peut-être la proximité de la mort rend la vie plus précieuse aussi. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi ou...
La proximité et la définition d'une force vitale répartie en diverses émanations, diverses façons de l'apercevoir, oui.
Autour de la question comment faire parler les morts, je propose maintenant de revenir, comment dire, Philippe Charlier, à des interrogations à la fois plus matérielles et plus intellectuelles autour d'un célèbre cerveau. C'est celui d'Einstein que vous n'avez pas personnellement autopsié, vous, c'est celui de Descartes que vous avez numérisé pour les besoins de la science et pour notre plus grande curiosité, mais aussi pour celle du physicien et philosophe Étienne Klein qui a une grande question pour vous. Eh bien, on l'écoute.
Bonjour Philippe Charlier, j'ai une question à propos de cette légende qu'on raconte à propos du cerveau d'Einstein qui a été, contre la volonté du père de la relativité, coupé en lamelles et on a espéré trouver dans l'analyse de ce cerveau en miettes l'explication de son génie. Évidemment, rien n'a été vraiment concluant, mais d'où vient cette idée que la forme du cerveau, sa typologie serait indicatrice de l'intelligence qu'il produit ?
Votre réponse, Philippe Charlier.
Bonjour, Étienne Klein. La morphologie ne fait pas tout. Et le cerveau d'Einstein, en effet, c'est difficile d'essayer de chercher une explication au génie. Déjà, qu'est-ce que le génie ? C'est une question philosophique en soi, peut-être neurologique aussi ou psychiatrique. Mais je pense que le cerveau n'explique pas tout. À la fois l'aspect extérieur, ayant travaillé sur le cerveau de Descartes, pouvant peut-être être considéré comme un autre génie.
Vous avez numérisé le cerveau de Descartes.
On a numérisé, on a reconstitué en fait en trois dimensions le cerveau de Descartes, puis on en a fait un moulage en résine. Et certes, il y a une anomalie qui peut expliquer certaines choses, mais ça n'explique pas tout. Comme pour le cerveau d'Einstein, il y avait une anomalie à l'extérieur et puis des réseaux neuronaux à l'intérieur qui n'avaient pas grand-chose de sensationnel. Le cerveau est un substrat et on peut l'utiliser d'une façon ou d'une autre, on peut le doper, si je peux dire, mais c'est surtout la confrontation au monde extérieur, c'est surtout l'expérience, c'est surtout... la vie, tout simplement, qui fait qu'on en profite encore plus, qu'on développe des capacités particulières ou autre chose. Donc, c'est un peu comme un terreau, une bonne terre de base. Est-ce qu'on y plante une bonne graine ? Est-ce qu'on l'hydrate suffisamment ? Est-ce qu'on la met au soleil ? Est-ce qu'on en prend soin ? Voilà, il faut cultiver son jardin, pour paraphraser, pour citer Voltaire. Le jardin, c'est le cerveau. Maintenant, il faut le cultiver.
Et c'est ce que vous lisez, ce que vous voyez aussi dans les morts, célèbres ou anonymes, que vous étudiez, c'est aussi finalement leur vie, les traces de leur vie, de leur maladie. Vous arrivez ça à le lire, ce qui dans leur environnement les a façonnés. Enfin, c'est comme une espèce de, pas une photo, mais enfin c'est une sorte de photo d'une époque, véritablement.
En fait, on reconstitue une vie quotidienne. Mmh. On reconstitue vraiment les aléas du quotidien, les maladies, les traumatismes, les signes d'activité physique, d'activité professionnelle.
Faut dire que tout vous renseigne,
parfois.
Les cheveux, tout
les
vous
cheveux,
renseigne.
La peau, les cicatrices, les dosages toxicologiques au niveau du tartre dentaire ou des dents, le contenu gastrique quand on a la chance de le retrouver. On fait vraiment feu de tout bois, si je peux me permettre. Mais comme sur une scène de crime, quand on retrouve un fragment corporel ou autre chose, on va essayer de tout pour faire parler les morts. Il y a une expression, c'est trouver tous les signes en faveur de la manifestation de la vérité, tout simplement. Et ben voilà, nous, c'est la vérité historique ou archéologique, pas la vérité judiciaire, sauf pour Ramsès III. On l'a vu un peu avant, y a peut-être eu un coup fourré. Non, très sérieusement, tous les éléments du corps humain sont parlants, ont une information à nous transmettre. Et même sur une crémation, parce qu'on pourrait se dire quand un corps a été incinéré ou crémé, il n'y a plus aucune information. C'est vrai, pour la morphologie, on ne peut pas aller très très loin. En revanche, on peut plus ou moins isoler l'ADN, même très fragmentaire, de l'individu. On peut également faire les dosages élémentaires ou toxicologiques. On peut encore récupérer quelques informations. Tout n'est pas perdu. En tout cas, pour les crémations anciennes, avant que ça soit complètement pilé et que ça soit une poudre, là, on a des gros morceaux osseux qui font parfois une dizaine de centimètres. Et là, le puzzle peut être reconstitué de façon plus ou moins parfaite.
Comment vous voyez alors, la vie, la mort, votre vie? Est-ce que votre expérience de médecin légiste, de paléoanthropologue, de spécialiste aujourd'hui des zombies ou des vaudous en Haïti, enfin, comment toutes ces expériences-là, et aujourd'hui de directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, comment ça vous a modifié vous-même? Qu'est-ce que ça a fait changer chez vous? Parce que quand vous avez démarré, il y avait moins de techniques quand même aussi possibles, peut-être moins d'outils technologiques pour observer, faire parler les morts, les statues, les fétiches, sans les, de manière non invasive, sans les toucher.
Eh bien, je me dis que cet ensemble de spécialités coïncide vraiment très bien. C'était quelque chose qui n'était pas forcément acquis il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et l'anthropologie sociale, par exemple, l'ethnologie, qui est un des fondamentaux du musée du Quai Branly, par exemple, eh bien, s'enrichit au fur et à mesure de ces diverses composantes, soit de sciences fondamentales, soit de l'archéologie ou des sciences politiques, parfois. Et c'est un très bon mélange des genres. Maintenant, sur mon quotidien, est-ce que ça me rend triste ou plutôt gay ou euphorique? Ça dépend des jours. Ça n'a pas changé ma propre existence. Pour moi, la mort de quelqu'un de proche est toujours un scandale. Ça ne change pas. L'absence des êtres aimés est toujours la même. Un médecin légiste est triste quand il perd quelqu'un qui lui est cher, malgré tout. La mort est une collègue de travail, vous voyez, mais c'est un collègue de travail qu'on n'aime pas.
Merci infiniment Philippe Charlier, vous revenez quand vous voulez pour partager avec nous que ce soit ces autopsies des morts célèbres que vous venez de publier, c'est votre dernier ouvrage qui est paru aux éditions Taillandier, ou les dernières recherches et découvertes que vous pouvez faire dans votre musée du Quai Branly. Je vous rappelle que si vous êtes à Paris, chers amis auditeurs, vous pouvez visiter le musée du Quai Branly et peut-être aussi finalement venir plus tard y mener des recherches et suivre vos enseignements. Philippe Charlier, à bientôt.
À bientôt Caroline.
Ici ou ailleurs.
Avec plaisir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio, mais aussi sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, autour de la question suivante. Qu'est-ce qu'on mange? Pourquoi et comment? Regard croisé de chercheurs et de mangeurs divers et variés dans l'exposition « Je mange, donc je suis » au Musée de l'Homme, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci de votre écoute attentive et de votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans une petite minute.